Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien, c'est Marianne Paquette pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. La marche est une activité qui est très accessible, abondamment pratiquée ici au Québec. Peut-être à part pour ceux qui, pour différentes raisons, vont hésiter à affronter le climat hivernal. On peut les comprendre, surtout avec des températures comme cette semaine. Par chance, il y a plusieurs centres commerciaux qui ouvrent leurs portes aux marcheurs, des personnes âgées en majorité. Et Philippe Champagne sera là en deuxième partie d'émission, lui qui est conseiller en loisirs au réseau FADOC, pour nous parler de ces clubs de marche bien particuliers. Mais d'abord, je vais vous parler de l'organisme Les Impatients, voué au soutien par l'art aux personnes qui souffrent de maladies mentales, qui est, peut-être vous connaissez cet organisme-là, en tout cas c'est généralement bien connu du grand public, notamment, et ça c'est un avis personnel, je pense grâce à l'originalité dont ils font preuve dans leur collecte de fonds. On peut penser ici aux albums Les Duos Improbables, la BD un petit peu plus récente, Un moment d'impatience, les coffrets également, Mille mots d'amour. L'organisme, peut-être ça je vous l'apprends, l'organisme existe, oui, depuis plus de 20 ans, et aujourd'hui je me donne la chance de discuter avec son directeur général Frédéric Palardy sur, oui, le bilan de l'organisme, mais également un bilan de la santé mentale au Québec. Frédéric Palardy, je bois mon thé pour un petit peu m'hydrater, mais on voit que ça oui. réussit pas tout à fait. Frédéric Palardy, bonjour, merci d'être là. Vous êtes directeur général des Impatients. Bon, je le disais, ça fait un petit peu plus de 20 ans que ça existe, l'organisme. Il reste quand même des défis pour vous dans l'avenir. On va bien sûr y revenir, mais d'entrée de jeu, je voulais vous entendre sur la santé mentale au Québec. Est-ce que le regard a changé dans les années? Là, vous qui, puisque en étant directeur général de cet organisme-là, avez un regard un petit peu, une vue d'ensemble sur la santé mentale.
Écoutez, j'imagine qu'il y a des gens qui pourraient beaucoup mieux répondre que moi à cette question-là. Je suis quand même relativement jeune. Je suis impliqué dans les Impatients depuis longtemps parce que c'est ma mère, donc Lorraine Palardy, qui a créé mm-hmm. les Impatients. Mais pour ce qui est d'un regard sur la santé mentale, je vais vous donner mon point de vue personnel. J'ose espérer que le regard change. J'ai une grande confiance, moi, en la jeunesse. Je pense que la jeunesse, je donne des conférences, ou des conférences c'est un grand mot, mais je donne parfois des petits laïus à des gens du secondaire ou du primaire, et j'ai l'impression que les préjugés disparaissent, que mm-hmm. ce soit au niveau de la santé mentale ou à d'autres niveaux, mais j'ai l'impression que les préjugés sont en train de disparaître à plusieurs niveaux avec notre jeunesse, avec les jeunes. Je pense également que la sensibilisation des dernières années est très bien faite. Je pense à Belle cause pour la cause. Mm-hmm. Donc, c'est de plus en plus, il y a une sensibilisation à la population. Et moi, je pense aussi que si on gagne juste le fait que la santé mentale, justement, ça se traite et que c'est une maladie qui se traite, déjà, c'est pas mal. Ce serait pas mal.
Est-ce que vous pensez que les Impatients ont un impact sur ce changement de regard-là?
Je l'espère et je pense que oui. Au quotidien, moi, je le sens. Mais je l'espère profondément parce que tout ce qu'on fait aux Impatients, on essaie de le faire justement, c'est un de nos mandats, donc de démystifier, de montrer que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qu'ils souffrent, mais quand ils souffrent moins, sont capables de grandes choses, de belles choses surtout, de belles choses.
Est-ce que le profil de vos usagers, je ne sais pas si usager, si c'est le bon terme, est-ce que c'est celui que vous utilisez à l'organisme?
Non, nous, c'est... Nous, c'est des personnes, donc c'est des impatients. Des impatients, pas dans le sens de patient, justement. Ouais. Donc, c'est pas des usagers non plus, parce que usagers, je fais souvent référence au service hospitalier. Ce qu'on a, c'est des personnes qui viennent chez nous, que l'on les traite comme des personnes. Alors, ces personnes-là viennent ici, viennent créer, viennent se sentir bien.
Frédéric Palardy, c'est intéressant ça parce que je regardais bien sûr votre historique. En 92, bon, on a commencé, il y a une fondation qui a été mise sur pied pour promouvoir l'art auprès des personnes qui vivaient avec une maladie mentale. C'est en 99 qu'est venu le nom Les Impatients. Pourquoi ce titre-là? Peut-être vous voulez... Bon, la question vient souvent, mais moi, je la connais pas la réponse.
Ben, écoutez, on s'appelait la Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec. C'était un peu compliqué. Alors, il y a eu, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme je vous disais, moi je suis jeune dans la fondation, mais le mot vient justement des gens qui, de la façon dont on traite les personnes. Alors, c'est des personnes, les gens qui viennent ici, ce sont des personnes qui sont impatients de guérir, impatients de faire autre chose. Ce ne sont pas des patients. L'idée vient de là et il y a également une référence à la fleur, l'impatiente, qui est une fleur qui vit bien à l'ombre. Donc, il y a un beau lien là, avec les impatients parce que c'est des gens qui sont souvent qui veulent sortir de l'ombre, mais qui vivent quand même dans l'ombre.
En effet, c'est magnifique, Frédéric Palardy. Vous recevez combien de personnes par année, les impatients?
Par année, on a des beaux chiffres. Moi, je trouve que c'est des beaux chiffres. Ça a commencé tout petit. Aujourd'hui, on est en plein développement. On reçoit 450 participants par semaine. Donc, c'est plus de 20 000 participants qui viennent dans nos ateliers par année.
Et dans différents types d'ateliers, on pense des ateliers musicaux, arts visuels, arts dramatiques. Est-ce qu'il y en a d'autres, Frédéric?
Oui, bande dessinée, musique, dessin, peinture. Et on vient d'ajouter cette semaine un autre succès. Il vient de commencer un atelier en partenariat avec Danse Cité, qui est une troupe de danse contemporaine. L'atelier a commencé avant-hier et ça fut un succès extraordinaire. Encore une fois, parce que c'est de l'expression artistique, parce que l'animatrice... Je pense que c'est un des beaux succès aussi. Là, je fais du coq à l'âne, mais le succès des impatients repose beaucoup sur le respect de la personne et le choix de nos collaborateurs. Nos animateurs, nos collaborateurs sont vraiment extraordinaires.
Vous le dites, vous êtes toute jeune là, dans la fondation, Frédéric, mais parce que vous avez quand même grandi dedans, là, peu comme Obélix. Là.
Oui, effectivement, oui.
Est-ce que le modèle a changé ou les impatients sont fidèles depuis un peu plus de 20 ans à leur approche?
Je vous dirais qu'ils sont fidèles depuis 20 ans. Encore une fois, je le dis, mais je le répète, ça part du respect de la différence, respect de la personne, l'absence de jugement. Un des beaux critères de la Fondation, on pose pas de questions sur la maladie. Les gens viennent ici et qu'ils soient schizophrènes, bipolaires, dépression majeure.
C'est pas abordé, ça.
C'est pas abordé du tout. Pas du tout. On parle pas de la maladie. On parle de la personne, on les respecte, ce sont des gens comme les autres qui, oui, souffrent, mais ils ont une maladie. Et on n'en parle pas de cette maladie.
Donc, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut arriver chez les impatients et dire « Moi, je veux suivre un atelier. »
En général, on a une clientèle assez lourde, par contre. Je vous dirais que oui, mais malheureusement, on a des listes d'attente à cause du financement. Mais généralement, les gens sont référés par des psychiatres, des travailleurs sociaux, donc des références du système de la santé.
Tout à l'heure, d'entrée de jeu, Frédéric Palardy, je disais que même malgré plus de 20 ans d'existence, il reste des défis à affronter, on pourrait dire comme ça, pour les impatients. Et notamment dans ces défis-là, il y a l'implantation de d'autres fondations ailleurs au Québec. Fondations
d'autres ateliers,
ou d'autres ateliers, ce serait mieux dit. Là, vous êtes déjà dans 5 endroits au Québec.
On est dans 7 endroits au Québec.
OK.
Et oui, on est en exploration. D'ailleurs, on a déjà, les annonces vont venir bientôt, mais Joliette. Donc, toujours en collaboration. Maintenant, quand on va en région, on essaie d'avoir une collaboration avec un site parce qu'on veut sortir. Donc, premièrement avec un hôpital, pour la référence des impatients, et ensuite avec un site, parce qu'on sort la maladie de l'hôpital, parce que ça aussi, ça fait du bien de sortir du milieu hospitalier. Déjà, c'est une forme de traitement. Et donc, on a déjà d'autres sites en collaboration avec des hôpitaux. On est en discussion avec Joliette, Sorel, Laval, donc Saint-Jean-sur-Richelieu. On essaie de développer beaucoup. La demande est là.
Donc, ça se passe bien, cette implantation-là. La demande est là et l'accueil y est également.
L'accueil y est. On a la chance d'avoir une réputation très enviable. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, oui, on est connu par notre originalité, mais au-delà de l'originalité, on a découvert une statistique dernièrement, dans les 15 dernières années, il y a plus de 1500 artistes qui ont collaboré avec nous, donc qui cautionnent les impatients. Le milieu de la santé cautionne les impatients, les psychiatres, les travailleurs sociaux. Donc, ces appuis-là, on les a. Le défi qu'on a, c'est toujours le même, qui, pour plusieurs organismes, c'est l'argent. C'est vraiment le défi du quotidien. Sinon, on aurait partout.
Peut-être que poser la question, c'est y répondre, Frédéric, mais c'est encore un enjeu, là, même après 20 ans, l'enjeu financier chez vous.
C'est un défi quotidien, je vous dirais. Ça prend malheureusement une bonne partie de... Ça fait partie de mes tâches quotidiennes, c'est d'aller chercher du financement. On est très peu financé par le public, même pas 20 % et peu de dons récurrents, donc il faut faire appel au privé, qui est très, très sollicité. Et d'entrée de jeu, vous me demandiez tantôt quelle est la différence des 20 dernières années. Mm-hmm. Je pense que l'avantage se situe là un peu maintenant. C'est plus facile, je dis plus facile, c'est pas facile, mais c'est plus facile de vendre la cause de la maladie mentale aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans.
Ben oui, parce qu'on en entend davantage parler, parce que il y a eu des ouvertures là, dans la société qui se sont faites par rapport à la santé et à la maladie mentale.
Oui, la perception est moins négative, je dirais.
Mm-hmm. Est-ce que les besoins, je reviens un petit peu là, à vos défis de s'implanter en région un petit peu partout, est-ce que les besoins sont les mêmes? Est-ce que le regard sur la santé mentale est le même également en région éloignée de Montréal?
Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais de ce que je sens, je vous dirais oui. Il y a peut-être moins de problèmes, par exemple, si on pense à l'itinérance ou des trucs comme ça, mais pour ce qui est de la maladie mentale, oui. Autant de besoins, autant de souffrances, autant d'absence de lieux où les gens se sentent bien. Mm-hmm. Les gens se sentent respectés, se sentent libres. C'est très, très rare, la liberté. Ici, on essaie de l'offrir et je pense qu'on réussit.
Et de là l'importance d'aller voir ailleurs au Québec ce qui se passe, là, de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, les impatients.
Oui, et on se fait approcher de plus en plus. J'ai pratiquement pas de démarchage à faire. Hein. Mm-hmm. Encore une fois, grâce à notre réputation et nos appuis, c'est les gens qui nous approchent, les C3S ou des gens qui ont entendu parler de nous, qui veulent offrir ce service-là.
Donc, il y a un appui de la communauté scientifique à quelque part.
Ah oui, définitivement. Mm-hmm. Définitivement, on a des psychiatres sur notre conseil d'administration et la majorité des hôpitaux, des directeurs généraux d'hôpitaux, s'ils avaient les fonds, comme je dis, on aurait un par hôpital. On serait associé, on aurait des impatients par chaque hôpital ou presque. Oui.
Mais à venir, Frédéric Palardy, peut-être dans 20 ans, quand vous serez encore tout jeune, ben ça sera le cas.
Je vous dirais que probablement avant 20 ans.
On vous le souhaite. Dans l'avenir, ce serait un des plans ou il y en a d'autres peut-être à plus court ou moyen terme?
Ah, dans l'avenir, c'est le plus possible. C'est toujours la mission principale, c'est d'aider les gens. Donc, c'est d'en ouvrir le plus possible pour aider les gens. C'est pas pour en faire des Tim Hortons. J'ai rien contre Tim Hortons, mais c'est pas pour en faire des franchises à tout prix. Ouais. C'est vraiment pour aider le nombre le plus grand possible d'impatients.
Ouais. Et peut-être aussi ailleurs au Canada, dans ce cas-là.
Pourquoi pas? Pourquoi
pas? À plus court terme, Frédéric Palardier, ben, il y a cette 17e édition quand même de Parle-moi d'amour, qui est pour vous aussi une bonne source de financement. Mais au-delà du financement, c'est quand même une façon d'aller vers le grand public, de continuer à sensibiliser les gens à la réalité des personnes qui vivent avec une maladie mentale.
Oui, et c'est aussi, faut pas. Oui, c'est tout ça, comme vous dites. C'est une grosse activité de financement, mais c'est aussi très important pour nous parce que c'est une exposition qui regroupe des impatients avec des artistes professionnels. Et vous savez pas l'impact sur l'estime de soi quand on fait une œuvre et qu'on est accolé à une œuvre de Marc Séguin, par exemple, qui participe cette année à notre 17e édition à Montréal. C'est incroyable pour l'estime de soi de pouvoir s'afficher, de pouvoir afficher ce qu'on fait. C'est bon pour ceux qui n'ont aucun problème dans la vie. Alors, vous pouvez imaginer pour ceux qui en ont et ceux qui sont peu écoutés dans la société, c'est très, très, très efficace.
Parce que lors de ces expositions en camp, Frédéric Palardier, vos impatients sont présents sur place.
Oui, oui, oui. Ils sont très présents, ils sont invités au vernissage, à la clôture. Ils y participent autant. C'est des invités de marque comme tous les autres.
Mm-hmm.
Et je veux souligner, on a 4 éditions. Hein.
Ouais.
Une à Drummondville, une à Montréal, une au Pays d'en Haut et une au Centre Wellington à Verdun. Toujours sur le même principe, des artistes professionnels qui collaborent avec nous gratuitement, qui fournissent des œuvres. Et des impatients qui font des œuvres également gratuitement pour nous.
Mm-hmm. Donc, parlez-moi d'amour à Drummondville, 2e édition, ça a débuté déjà 13 janvier, donc hier, jusqu'au 17 février. Donc, est-ce que l'encan, c'est tous les jours? Comment ça se passe, Frédéric?
Oui, c'est un encan silencieux, donc on va voir les œuvres. Toutes les informations sont sur notre site, donc impatients.ca.
Oui.
Donc impatients avec un S.ca. Mais donc il y a des heures d'ouverture dans des espaces galeries où on peut miser. Tout le monde part sur le même prix, même pied d'égalité. Donc les œuvres partent à 50 $. On peut miser par tranche de 25 $. Et à la fin de l'encan silencieux, donc dans varié. Ici à Montréal, c'est 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, celui qui a la plus haute mise remporte le lot. Et il y a quelques œuvres qui vont à l'encan crier également.
OK. Donc, Drummondville, Pays d'en Haut, Montréal et Centre Wellington.
Effectivement.
Et puis, en même temps, c'est une bonne façon, oui, d'encourager les impatients, mais également d'avoir un lien très, très étroit avec l'art, si on aime l'art visuel, mm-hmm. et un contact privilégié avec vos impatients, Frédéric Palardier.
Oui.
Donc, plein d'avantages à cette exposition en camp Parle-moi d'amour. Ça a été un plaisir de parler avec vous aujourd'hui, Frédéric Palardier. Je rappelle que vous êtes directeur général des impatients et la meilleure des chances dans les prochaines années dans vos projets.
Merci beaucoup, Mme Braquette. Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _ M.
Philippe Champagne, bonjour.
Oui, bonjour.
Des clubs de marche à l'intérieur, une semaine comme aujourd'hui où la température a chuté dans les moins 30 degrés Celsius, c'est assez à propos.
Ah oui, effectivement. Puis en fait, c'est très à propos pendant tout l'hiver, là. Surtout lorsque le verglas nous tombe sur la tête, les trottoirs deviennent rapidement inaccessibles.
Oui, tout à fait. La marche en centre commercial, ça existe depuis combien d'années au Québec?
Écoutez, il y en a, je pense qu'il y en a eu depuis qu'il y a des centres d'achat qui ont commencé à exister au Québec depuis plusieurs années. C'est sûr que c'est un phénomène qui est de plus en plus populaire puisque les centres d'achat, il y en a partout. Mais aussi, c'est aussi facile, cette activité-là, c'est organisé au fil du temps, c'est structuré. C'est réellement devenu des clubs à part entière où ils sont gérés par un conseil d'administration pour les plus gros qu'il y a au Québec. Il n'y en a pas des tonnes non plus, là, des clubs de marche.
Une dizaine, je pense.
Oui, c'est ça. Il y en a environ une dizaine. Mais il y en a de plus en plus là, surtout dans des régions, dans les régions urbaines, naturellement. Mais à Montréal, c'est très, très présent. Il y en a plusieurs. Mais aussi, on en retrouve dans les grandes villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, dans la capitale nationale également. Il y en a plusieurs et ce sont tous des clubs qui sont tenus par des gens qui sont des bénévoles, là, qui font ça de leur plein gré, mais aussi qui sont bien souvent les pionniers, justement, ceux qui ont eu l'idée de base et qui ont décidé de partir avec des amis à gauche, à droite, de structurer un peu cette activité-là qui est la marche.
Mm-hmm. Philippe, vous le disiez, de plus en plus de centres d'achat, c'est vrai. En même temps, le Québec présente une société vieillissante et, je le pense, c'est une activité qui s'adresse davantage à eux.
Oui, oui, absolument. Ben, écoutez, moi, pour ma part, j'ai travaillé dans la région de la Mauricie. J'étais avant au bureau régional de la FADOC il y a quelques années. Et lors de mes premiers, les premières fois où j'ai été en contact directement avec la clientèle FADOC, c'est justement pour aller faire l'inauguration, le début de la saison de marche dans un des centres commerciaux en Mauricie. Et j'ai été assez surpris de constater que la clientèle, oui, est vieillissante, mais que c'est somme toute assez bien réparti puisque les gens finissent par amener des amis. Mm-hmm. Et je m'attendais à ce que ce soit vraiment, mettons, du 70 ans et plus. J'ai été très étonné de voir qu'il y avait des gens dans la soixantaine, il y avait même des gens dans la cinquantaine qui, eux autres, venaient accompagner des amis à eux avant de commencer leur journée de travail carrément. Donc, je dirais que c'est un peu... C'est plus réparti que ce qu'on pourrait le croire. Et justement, ça donne une occasion justement de socialiser pour ces gens-là avant de commencer la journée proprement dit. Et moi, ça se terminait toujours par le café dans le centre d'achat, au milieu du centre d'achat. Et les gens socialisaient et pouvaient passer plusieurs heures. Donc ça, c'est pour ceux qui naturellement ne sont plus au travail, mais qui pouvaient passer de longues heures justement. Et c'était carrément une habitude. Une saine habitude,
oui.
Parce que justement, de bouger et de commencer la journée comme ça, c'est intéressant. Là, ça donne une occasion de rencontrer des gens, mais surtout de bouger, ce qui n'arrive pas nécessairement facilement, surtout dans la période hivernale où, comme vous le disiez tantôt, des fois, on est un peu limité de par les trottoirs ou la température qui n'est pas nécessairement très agréable, ou l'été, parce que l'été aussi, il y a des gens qui marchent. Des fois, la température se prête moins à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui me confiaient qu'il y a mieux de marcher dans les centres d'achat que marcher carrément à l'extérieur.
Ben oui. Les centres commerciaux, Philippe Champagne, offrent des températures contrôlées. C'est l'un des avantages là, parmi tant d'autres. Mais on pense à combien de kilomètres à peu près? Là? Ça ressemble à quoi le circuit effectué?
Ben écoutez, c'est sûr que ça dépend, ça varie beaucoup d'un centre d'achat à l'autre. Si je prends comme exemple, lorsque moi j'étais en Mauricie, justement, c'était un circuit de 1,5 km. Et les gens faisaient 5 tours.
Wow.
Donc, ça faisait quand même entre 5 et 7 kilomètres que les gens se faisaient à tous les matins. Et eux autres, c'était donné un objectif. s'était donné un objectif. Il avait sorti une carte du Canada et le but, c'était de se rendre d'un océan à l'autre. Donc, il calculait, chaque personne calculait le nombre de kilomètres et à la fin de l'année, ben, il espérait justement se rendre jusqu'en Colombie-Britannique avec le nombre de kilomètres. Mm-hmm. Donc, ça donnait un objectif, c'était intéressant. Le tout était, ça arrive souvent dans quelques clubs de marche, que c'est supervisé aussi par des kinésiologues qui venaient au début de la saison montrer okay, comment bien marcher, comment faire attention, faire un peu de prévention des chutes parce que lorsqu'on marche, lorsqu'on se met actif, ben, il y a des bonnes façons de faire les choses aussi. Et c'est ça, il y a des kinésiologues qui venaient montrer un peu les bienfaits de la marche, comment marcher, comment bien marcher. Il y avait des podomètres que les gens se procuraient pour calculer leur nombre de pas. Il y avait des statistiques que les gens se faisaient pour se lancer des défis entre eux autres. Et qui dit saines habitudes de vie, il y a aussi tout un autre pan qui vient avec ça, dans le sens que il y a des gens qui commençaient à s'échanger des trucs santé, des recettes santé. Il y avait des gens qui là-bas se faisaient des shakes le matin pour se mettre en forme, des petites boissons pour se donner de l'énergie. Il y a aussi le vendeur de chaussures du coin qui était venu faire une démonstration des bons souliers de marche pour l'intérieur, pour l'extérieur, pour l'hiver. Donc, il faisait même des rabais pour les membres du club de marche pour ceux qui voulaient se procurer des souliers de marche. Donc, ça touche de façon très large un peu.
Oui, c'est assez global, en
effet. Oui, c'est ça, exactement. Tout ça dépend naturellement du club de marche dans lequel on est et aussi du centre d'achat dans lequel on est. Il faut s'informer auprès de ces différents clubs de marche-là. Mais je vous dirais que si les gens sont intéressés à avoir de l'information, c'est aussi facile que d'aller dans les centres commerciaux. Il y a toujours un service à la clientèle qui vont être capables de leur dire « Oui, ici, on a un club de marche » et de les référer aux bonnes personnes. Comme je vous disais tantôt, bien souvent, ce sont des bénévoles qui soutiennent ça. Et il y a plus que seulement de la marche. Ça devient véritablement un cercle d'amis. Mm-hmm. Il y a des soupers, il y avait des échanges de cadeaux qui se faisaient dans le temps des fêtes. Il y avait des petites attentions qui se faisaient dans des fêtes particulières, comme la Saint-Valentin, où il y avait des tirages qui étaient organisés. Donc, ça devient rapidement plus que...
Vous allez me donner le goût d'y aller, Philippe Champagne.
Tant mieux!
Certainement. Puis en région métropolitaine, bien sûr, j'imagine qu'il y en a quelques-uns. Est-ce qu'on sait, en fait, j'imagine, c'est assez abordable aussi comme coût d'inscription?
Oui, bien ça aussi, c'est assez variable. Tout dépend. Je vous dirais que ça peut jouer entre 5 et 20 $ là, tout dépendant de l'endroit où on peut se trouver. Et cet argent-là, naturellement, sert uniquement à faire vivre le club de marche parce que bien souvent, ces gens-là ont de la publicité, ils vont faire un programme, ils vont faire des tirages, ils vont établir des liens avec certaines entreprises. Ils ont des coûts, des fois, de locaux en location parce que y a des endroits où les gens vont s'échauffer carrément. Donc, ils ont un petit local exprès pour eux autres. Donc, il y a quelque chose, il y a une rétribution, il y a quelque chose à redonner au centre d'achat. Donc, c'est très variable, mais l'entièreté des sous qui sont demandés en inscription retourne aux gens tôt ou tard là, pour l'activité qui est la marche. Là.
Mais 15 à 20 $ ça reste très accessible.
Oui.
Philippe Champagne, vous êtes conseiller en loisirs au réseau FADOC. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces clubs de marche un peu particuliers dans les centres commerciaux.
Ça fut un plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'était Marianne Paquette au micro. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.